Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Stratégie avec Frédéric Simotel sur BFM Business.
Bienvenue dans cette nouvelle session BFM Stratégie. On va parler aujourd'hui des ERP, ces Enterprise Resource Planning. Alors c'est logiciel, vous en entendez parler régulièrement, vous savez à peu près ce que ça fait, hein, si on est pour gérer, que les entreprises gèrent leurs affaires au quotidien, leurs achats, leur comptabilité. Et puis en fait, on ne sait pas trop si c'est un sujet technique ou si c'est vraiment un sujet stratégique. C'est évidemment les deux, mais on va essayer de comprendre un peu tout ça. Et puis vous savez qu'il y a quand même quelques, parce qu'il y a de gros acteurs, notamment un gros acteur européen, en parlant de SAP, qui va la version actuelle, d'ici à 2027, la version actuelle ne sera plus maintenue. Donc, il faut vraiment réfléchir à comment on va faire évoluer ces ERP. Et pour en parler avec nous, François Stragier, bonjour.
Bonjour Frédéric.
François, merci d'être avec nous. Vous êtes partenaire, directeur au BCG et spécialiste des projets de transformation. Ma première question, c'est nous dire, alors là, je l'ai dit très rapidement, en deux mots, ce qu'est un ERP, puis nous rappeler, voilà, c'est un secteur très vaste. Souvent, on est même un peu perdu parce qu'on a des SAP, Oracle, et puis de l'autre côté, on a plein de petits acteurs. Et puis on reviendra un peu plus dans cet univers, un peu plus en détail, dans ces coulisses des ERP.
Ouais, donc effectivement, la raison d'être d'un ERP, donc Enterprise Resource Planning, c'est de gérer les ressources de l'entreprise. Donc les ressources, c'est les finances, le stock, la logistique, etc. Donc si je prends par exemple une entreprise manufacturière, elle va servir de l'ERP pour faire son administration des ventes, gérer les commandes. J'ai passé les commandes auprès des fournisseurs pour pouvoir répondre à ces commandes, gérer son outil productif, faire les expéditions, gérer le stock, facturer le client et ensuite recevoir l'argent et faire sa comptabilité. Donc c'est vraiment un traitement de bout en bout qui permet d'optimiser l'utilisation des ressources.
C'est une vraie dorsale dans l'entreprise, parce que c'est vraiment ce qui fait fonctionner l'entreprise.
Et du coup, quand on raisonne en termes d'acteurs, donc parmi les noms les plus connus dans les très grandes entreprises, on va parler effectivement d'SAP. On a aussi Oracle. Alors, ouais. SAP est très très présent en Europe. Oracle est un peu plus équilibré. Oracle, SAP aux États-Unis. Et aussi des acteurs qui visent des entreprises un petit peu plus petites, comme par exemple Sage ou Microsoft Dynamics. Et en fait, le marché se segmente d'une part en fonction de la taille des entreprises, parce que les produits les plus riches, ils apportent le plus de valeur ajoutée pour les grandes entreprises, mais ils sont aussi complexes. Donc une entreprise de taille moyenne qui veut implémenter un outil d'un grand, ça va être compliqué parce que la complexité va
Même si à une époque, ils essaient davantage de se tourner vers les PME, mais on voyait bien que c'était compliqué.
Voilà. Et à contrario, des acteurs qui sont soit spécialisés dans une industrie, pour un secteur d'activité donné, puisqu'on voit bien, c'est du processus métier. Donc, on n'a pas le même ERP quand on est manufacturière ou dans du retail, la grande distribution. Et donc, certains vont se spécialiser sur une industrie particulière ou sur des plus petits clients.
Ah, et c'est ça.
Ils vont venir à quelque chose de plus
plaisant. Et là, le choix devient compliqué, hein, pour savoir vers où on va. Si on prend un plus généraliste qui va un peu spécialiser son produit, un spécialiste ou un plus petit qui va peut-être nous intéresser de plus près. Alors, ils ont une durée de vie qui est assez longue quand même, ces ERP. Hein. On change pas de ERP. On va dire en bureautique. Là, on est parti pour la vie avec ces produits, mais en ERP, voilà, on change. C'est quoi? C'est 10, 15 ans?
Moi, je dirais 15 à 30 ans.
Ouais. 15 à 30 ans. Carrément.
Et ce qui est très étonnant dans la technologie, parce que malgré tout, ça reste un outil technologique. Et dans la technologie, on a tendance à dire, au bout de 5 ans, c'est dépassé et on passe à la génération d'après. Quelqu'un qui aujourd'hui met en place un ERP, il faut plutôt se dire que c'est pour 15 ans à 30 ans.
Et alors, pourquoi on va en parler? Pourquoi on a choisi d'en parler plus précisément aujourd'hui, François?
Alors, on parle effectivement parce qu'il y a un déclencheur qui est l'annonce faite il y a quelques années par SAP de l'obsolescence pour 2027 de sa version actuelle, qu'on appelle ECC6.
Et celle la plus répandue aujourd'hui.
Voilà, qui est la plus répandue et qui est remplacée par S4, S4 en anglais. Et aujourd'hui, la quasi-totalité des grandes entreprises ont un projet ERP en cours. Certaines sont déjà très avancées et sont en train de le déployer dans leurs différentes entités à l'international. D'autres sont encore dans une phase très amont, soit de cadrage, soit de conception générale. Et on en parle maintenant parce que ce sont des projets qui sont très très difficiles et on voit passer beaucoup de projets qui sont en difficulté, qui ont du mal à avancer.
Alors, on a en plus, parce qu'on parle de projet dans des grandes entreprises, ça se chiffre en millions de dollars.
Ouais,
même centaines, oui, j'allais dire en centaines, j'allais dire en dizaines, non, oui, mais on peut même aller en centaines de millions d'euros et de dollars. Alors, on les voit souvent, on les a souvent vus comme des sujets techniques, des sujets très informatiques. Et puis finalement, vous nous dites, vous venez d'en donner l'explication, il faut quand même que les dirigeants s'y intéressent, quoi. Même si au départ, ça reste un sujet, oui, informatique, hein, c'est une application, une plateforme que l'on déploie.
Et je serais tenté de paraphraser Clémenceau, parce que Clémenceau, on pourrait dire l'ERP est un sujet beaucoup trop grave pour être confié aux seuls informaticiens.
Voilà.
blague à part, certaines entreprises considèrent encore que c'est un projet technique, un projet de mise à jour technique. J'ai une ancienne version, j'ai une nouvelle version. Amit, pourquoi pas ? Heureusement, elles sont peu nombreuses. Parce que, justement, la vague précédente de projets ERP, c'était plutôt les années 90. Donc, dans les années 90, beaucoup d'entreprises, éventuellement 2000, beaucoup d'entreprises se sont équipées pour un produit, donc d'une durée de vie de 15 à 30 ans. Donc là, on arrive plutôt vers la fin de durée de vie de ce produit. Mais on va repartir pour 15 ou 30 ans. Et aujourd'hui, faire l'hypothèse que c'est juste une mise à jour technique du produit, ça revient à dire que en 2050, qui est plutôt une fin de vie estimée de la nouvelle génération, on aura une entreprise qui fonctionnera sur la base de processus qui auraient été définis potentiellement dans deux générations d'outils, c'est-à-dire dans les années 90. Et aujourd'hui, quand on se projette un petit peu, quelle entreprise peut sérieusement se dire qu'en 2050, elle pourra fonctionner comme en 90?
Surtout avec,
ça pose un peu problème.
Surtout avec l'intelligence artificielle qui accélère un peu tout ça. Donc là, on a un vrai souci. Et alors, comment avancer? Parce qu'évidemment, il y a des sociétés de services, hein, qui sont autour de, qui sont bien présentes autour de. Alors, il y a des sociétés de conseils, bien entendu, en stratégie, mais il y a aussi des sociétés, des ESN, hein, qui sont concrètement au quotidien avec les entreprises. Et ça va être, elles, un peu les chevilles ouvrières.
Oui, absolument. Donc, aujourd'hui, un projet ERP se fait forcément avec une grande ESN, enfin, une ESN adaptée à la taille de l'entreprise, grande pour les plus grandes, peut-être plus petite pour les plus petites, et quasiment toutes ont une business unit qui est dédiée, qui ne fait que du projet ERP. Parfois avec des succès divers, mais c'est pas tellement une question de faute de l'ESN, c'est plutôt que ce sont des projets, il faut savoir, ce sont des projets qui sont intrinsèquement compliqués. Et ils sont intrinsèquement compliqués déjà parce que le sujet qu'ils traitent est compliqué. Si je reviens sur les processus qui sont gérés par un ERP, comme ce sont des processus métiers qui sont au cœur, avant de mettre en place le nouvel outil pour les 15 à 30 prochaines années, il faut se poser les bonnes questions. Donc il faut se poser les questions, par exemple, c'est quoi ma segmentation client? Comment est-ce que je veux gérer ma logistique? Comment je veux piloter la performance de l'entreprise? Comment je gère ma compta, mon plan de compte, etc.
Mes implantations pays aussi. Parce que
mes implantations pays.
Que tout le monde soit à la même vitesse.
Et d'autant plus que les grandes entreprises, elles vont avoir des très gros pays, mais aussi des tout petits pays. Ouais. Et on le disait avant, en fonction de la segmentation d'outils, bah, y a un problème. Parce que si j'ai un ERP qui est adapté pour mes très grands pays, quand je vais arriver dans mes petits pays, ça va être un peu plus compliqué. Donc il y a toute une série de choix à faire. Et l'essentiel de ces choix, ce sont des choix qui sont intrinsèquement métiers. Et les ESN, ce n'est pas forcément leur métier de faire, enfin c'est pas leur métier de faire les choix métiers à la place des entreprises. Donc elles vont pouvoir les accompagner dans les choix technologiques, mais par contre les choix métiers restent à la main de l'entreprise. Et on le voit, quand des collaborateurs sont mobilisés pour un projet ERP, ils ont tendance à penser qu'on va leur demander d'expliquer comment est-ce qu'ils travaillent aujourd'hui pour que les informaticiens puissent en prendre note et le mettre en place dans l'outil. Mais là aussi on a un problème temporel, parce que s'ils documentent comment est-ce qu'on travaille aujourd'hui, comment est-ce qu'on fera en 2050? Donc ça veut dire qu'on doit les amener à se poser les questions, de dire comment est-ce qu'on veut transformer l'entreprise et comment est-ce que je ferai ma segmentation client dans 10 ans, dans 20, enfin en tout cas pour les 20 ou 30 prochaines années.
Surtout, je vous interromps un instant, François Assager, mais en plus on a vu beaucoup, enfin on a vu des projets qui ont, alors peut-être pas en échec, mais qui ont pris beaucoup de retard parce que à l'intérieur même de l'entreprise, tout le monde n'a pas la même définition, hein, c'est compliqué, enfin des priorités à mettre en œuvre.
Effectivement, il faut réussir à se mettre d'accord, et c'est normal, comme tout choix structurant, si avec une seule réponse, ce serait pas un choix structurant.
Ouais.
Donc le projet ERP a un gros avantage, c'est qu'il permet de se poser des questions fondamentales. Oui, ça va être difficile, mais comme c'est un choix pour 15 ans, on a intérêt à pas se tromper. Et ce qui m'amène d'ailleurs à un deuxième défi pour ces projets, c'est la pénurie de talents. Et on le voit aussi bien côté ESN, où il faut des compétences techniques relativement pointues. Côté métier, il faut aussi des gens qui sachent se remettre en cause et pas simplement reproduire les schémas existants. Et surtout, et c'est probablement des aspects les plus durs, il nous faut des gens à la charnière qui soient capables de faire se dialoguer les responsables métiers et les responsables informatiques. Et ça, c'est extrêmement difficile.
Ouais,
d'autant plus que ceux qui ont mené la précédente vague de projets, bah, certains d'entre eux sont partis à la retraite, ouais. Ils sont partis faire autre chose. Donc il y a une sorte de réinvention de la méthode.
Et puis en plus, on va rajouter de l'IA générative par-dessus, on va essayer de se débrouiller tout seul aussi parfois. Enfin, ça va être un peu compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les principaux défis à relever, selon vous, pour les entreprises?
Alors, ce qui est étonnant et presque frustrant, c'est que les critères de succès d'un tel projet, ils sont connus. Oui. Sur le papier, on les sait tous, on fait la liste, vous faites votre liste, je fais ma liste, on convergera. On sait comment on devrait le faire. Dans la vraie vie, c'est un petit peu différent et ça marche jamais comme ça. Oui. Donc je pense qu'il y a une partie qui est juste simplement, il faut adapter les facteurs de succès au contexte spécifique d'une entreprise, à sa culture. Mm-hmm. Encore une fois, comme ce sont des projets très structurants, très traversants, on peut pas complètement ignorer la culture de l'entreprise.
Oui.
Mais aussi, il y a ce que j'appelle une conjugation de l'optimisme. On a l'impression que sur ce type de projet, il est extrêmement difficile, il est extrêmement mal vu de dire que ça va être difficile, qu'on va rencontrer des obstacles. Et on le voit souvent dans les dynamiques des équipes projet, tout le monde a envie que ça marche, et donc on va tous se persuader que ça va marcher jusqu'au moment où on est au pied du mur. Et ça, nous, on le constate, on est régulièrement appelé dans des situations comme ça, où le problème est connu, en fait, depuis longtemps, mm-hmm. mais il faut attendre une crise pour que l'entreprise se dise, non, ça va vraiment pas, il faut qu'on corrige le tir, il faut qu'on change notre trajectoire.
Et alors, le rôle des dirigeants de tout ça, ça doit être quoi?
Alors, le rôle des dirigeants, la première chose, je dirais, c'est de s'intéresser au projet.
Oui. Qui le voit encore? Alors, bon, les générations sont en train de changer, mais qui le voit encore comme un sujet technique, souvent, un sujet informatique?
Mais oui, il le voit comme étant un sujet informatique, mais c'est aussi un sujet informatique.
Oui, ça l'est, oui, c'est vrai.
Mais simplement, c'est extrêmement structurant. Et pour qu'ils s'intéressent au projet, il faut que tous les membres du comité exécutif qui sont concernés par ce projet commencent par se former pour comprendre ce dont il s'agit. On est en train de mettre en place des processus et des outils qui vont impacter leurs équipes, des milliers ou des dizaines de milliers de personnes, et malheureusement, beaucoup d'entre eux voient ça de très très loin, s'y intéressent pas trop, vont s'intéresser à la partie peut-être un peu plus shiny de l'informatique, la partie visible, mais pas aux fondations. Et ça, on parle du cœur du réacteur, on parle de la salle machine de l'entreprise, et c'est ça qui va faire fonctionner l'entreprise au quotidien.
Oui, parce que ce sont des sujets de... D'ailleurs, vous pilotez justement cette entité de transformation des entreprises, c'est des vrais sujets de transformation, mais ils ont du mal encore à le catégoriser, enfin à la
exactement. Et une de mes frustrations, c'est que là, on parlait de projets donc de plusieurs centaines de millions d'euros, voire plus d'un milliard d'euros pour les plus grandes entreprises. On sait que ces projets, plus ils sont grands, moins ils ont de chances de réussir. Il est pas rare qu'après quelques années, les entreprises soient obligées de constater l'échec et de passer par perte l'intégralité du projet. Il y a des exemples sur le marché de plusieurs centaines de millions d'euros de write-off, de perte sur un projet comme ça, parce qu'on arrive sur un cul-de-sac. Alors que si on était sur un projet de la même taille, sur un projet industriel, le COMEX s'y intéresserait. Oui. Si c'était un projet d'investissement industriel de plusieurs centaines de millions d'euros, le COMEX serait mobilisé. Donc vraiment, ma conviction, c'est que le COMEX doit s'intéresser à ces projets ERP comme il s'intéresserait à un projet industriel.
Voilà, ben le message est lancé. Merci François Stragier. Je le rappelle, vous êtes partenaire et directeur au BCG, spécialiste des projets de transformation. Donc c'est un sujet technique, c'est un sujet informatique, ERP, mais c'est surtout et encore un sujet stratégique pour l'entreprise, ne serait-ce parce que c'est lui qui fait tourner un peu vos achats, votre comptabilité, vos relations clients. Enfin voilà, toute l'importance donnée à ces ERP. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Et à très bientôt pour une nouvelle session de BFM Stratégie.
BFM Stratégie sur BFM Business.